Bonjour et bienvenue à Lory Mardini. Cette visite commentée de l'église Sainte-Croix de Lory vous est proposée par la commission patrimoine de l'association de la Côte Famille Rurale. Cette église a été classée monument historique en 1889 par l'administration allemande de la Lorraine annexée. Mettez maintenant votre lecteur en pause. Entrez dans l'enceinte du cimetière et tenez-vous juste à l'entrée. Nous reprendrons cette visite. Pendant des siècles, Lory, étant un village de vignerons, a eu une population beaucoup plus importante que celle de Mardini. C'est probablement pour cette raison que son église est devenue l'église mère de la paroisse. Elle devait donc accueillir pour les messes des fêtes les paroissiens des deux villages. C'est pourquoi elle a été agrandie à deux reprises. D'autre part, au cours du Moyen Âge, Lory et Mardini, étant situés à la frontière du pays messin avec les duchés de Lorraine, ils ont dû faire face à de nombreuses chevauchées armées. C'est pourquoi l'église de Lory a été fortifiée. Voici les grandes étapes de construction de cette église. Au XIIe siècle, c'est une petite église de style roman, avec une seule nef, moins haute que l'église actuelle. Au XIIIe siècle, on ajoute la nef nord, celle dans laquelle vous voyez la porte d'entrée. Du XIVe au XVIe siècle, l'église est progressivement fortifiée, donc en particulier surhaussée. Enfin, en 1895, on l'agrandit une seconde fois en construisant la nef sud, que vous ne pouvez pas voir depuis là où vous vous trouvez actuellement. L'histoire de ces importantes modifications va nous permettre de redécouvrir celle du pays messin. Cette église dédiée à la croix glorieuse est parfaitement orientée, c'est-à-dire que le cœur de l'église, dans l'abside, est à l'est ou orient. Mettez votre lecteur en pause et rapprochez-vous de l'abside de l'église, c'est-à-dire sur votre gauche, de cette partie où l'église est très proche du mur du cimetière. L'église Sainte-Croix a une abside polygonale à cinq côtés. Les pieds droits aux angles des côtés supportent à la fois des arcs en plein cintre et des colonnettes à chapiteaux. Il y avait probablement deux hauteurs de colonnettes à l'origine, sur lesquelles reposait la corniche du toit. Mais cet ensemble a été modifié quand les murs ont été surélevés lors de la fortification. La sacristie, construite en 1908, nous empêche d'avoir une vue d'ensemble de cette belle abside. Mettez votre lecteur en pause et venez vous placer au pied de la muraille arrondie de l'abside nord. Si vous levez maintenant la tête, vous voyez la bretèche, juste sous le toit, une petite construction en encorbellement. Elle était destinée à la défense active dans une fortification, puisqu'elle permet de jeter des projectiles vers les assaillants au pied de la muraille. Dans un château fort assiégé, les bretèches servaient aussi de latrine. Mettez à nouveau votre lecteur en pause et venez vous placer contre le mur du cimetière, à côté de la chapelle mortuaire, de façon à voir tout le mur nord. Ce mur nord, face à vous, correspond à la nef construite au XIIIe siècle, ce qui correspond bien au tympan de la porte d'entrée, un tympan trilobé, ornée de croix et avec en son centre une spirale. Les grandes fenêtres géminées en pierre jaune sont une création de 1895, donc toute récente, à l'époque de la construction de la nef nord. Tout à fait à gauche, en revanche, presque sous la bretèche, vous voyez l'une des fenêtres d'origine de l'église, beaucoup plus petite et située plus bas aussi. Face à vous, entre deux séries de baies géminées modernes, vous devriez distinguer la trace d'une très grande fenêtre murée. Elle date probablement des XVIIe ou XVIIIe siècles. Abordons maintenant la fortification. Le Moyen-Âge est émaillé de guerres entre ceux de Metz, comme on disait, et les ducs de Lorraine. La ceinture d'églises fortifiées à l'ouest de Metz avait une double fonction. Permettre aux habitants de trouver un refuge solide et ralentir le plus possible l'arrivée des ennemis sur Metz. Or, Metz a longtemps été surnommée la Pucelle, ce qui prouve qu'elle a su habilement se défendre. Des chroniques de bourgeois messins rapportent les événements de ces guerres. Certains citent explicitement Lory et Mardigny, dont les habitants devaient faire face au pillage de leurs ressources, de leur bétail, de leurs récoltes, et même à la prise d'otages. Cette église était sans doute le seul édifice en pierre du village, donc le seul aussi apte à être fortifié. On a d'abord construit la tour ronde, puis on a surélevé l'ensemble de l'édifice, de l'abside au clocher, pour aménager un étage où la population pouvait à la fois se réfugier et se défendre. Dans les combles de l'église, l'ancienne élévation de l'édifice, prise dans la maçonnerie de la fortification, témoigne de ce surhaussement. Comme dans toute fortification, on a ménagé des meurtrières de façon à guetter plus efficacement l'ennemi. Dans la tour ronde, ces meurtrières sont des archères à étrier adaptées au tir à l'arc. Sur le mur nord, en revanche, ce sont des canonnières, vous en voyez deux, adaptées au tir des armes à feu. Au sommet du mur nord, les ouvertures juste en dessous du toit sont probablement d'anciens créneaux comme on en trouvait le long des chemins de ronde des châteaux forts. Le seul accès au comble se fait par la tour ronde, donc édifices civils et religieux sont bien séparés. Au sommet de la tour ronde, du côté de la porte d'entrée, vous noterez la présence d'une pierre taillée très finement, placée là pour permettre de guetter les ennemis, mais qui est un remploi de la première église. Celle-ci, en fait, a été profondément modifiée pendant la fortification, ce qui explique ce remploi. Passez en pause lecture pour vous rendre dos au mur du cimetière, à quelques mètres de la grande croix. Cette façade sobre et même sévère de l'église de Lory, à l'ouest, nous permet de revoir les différentes étapes de la construction. Tout d'abord, le clocher, avec ses pierres d'angle de chaque côté, s'avançait seul vers nous au XIIe siècle. C'était sans doute une tour-porche, comme dans de nombreuses églises romanes de Lorraine, mais ce porche était sans doute situé au nord et non face à nous. Il était donc face à l'entrée du cimetière et face au village. Sa trace a donc disparu. Aux deux tiers de la hauteur du clocher, vous remarquez une frise sculptée qui en fait le tour. Seconde étape, au XIIIe siècle, on agrandit l'église avec la nef nord, donc à gauche du clocher. Troisième étape, au XIVe siècle, on construit la tour ronde. Quatrième étape, au XVe siècle sans doute, on surélève l'édifice, et en particulier le clocher. Enfin, dernière étape, au XIXe siècle, on construit la nef sud dont vous voyez à votre droite le mur de pignon, et on ouvre les fenêtres en pierre jaune. Passez en pause pour poursuivre le tour de l'édifice en vous plaçant cette fois face à la nef sud, à la hauteur du clocher. Au-dessus de la frise du clocher s'ouvre une fenêtre de guet avec volet. Et au-dessus, à droite, vous distinguez une pierre saillante. C'est une gouttière, donc elle est le témoin de l'emplacement initial du toit. La nef sud, ou nef allemande, puisqu'elle a été construite sous l'annexion allemande en 1895, est de style néo-roman. Sa construction avait été préparée par une étude détaillée de l'édifice qui avait entraîné le classement de l'église comme monument historique. Ceci termine la visite extérieure de l'église Sainte-Croix. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pourrez suivre l'une de nos visites guidées que nous organisons le troisième dimanche du mois pendant la belle saison. Vous trouverez plus de détails sur le site internet où vous avez téléchargé ce fichier.